Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Bertrand Maury. Bertrand, tu es un mathématicien,
oui.
Qu'on peut presque qualifier de modélisateur, ce mot te va ?
Le mot ne me choque pas, je l'assume volontiers.
Parfait. Alors, dans cette série de podcasts, on prend un mot qu'on entend un peu partout, dans les radios, télévisions, qu'on lit dans les journaux, que les gens ne connaissent pas bien, ou pire encore, l'utilisent très mal. Quel est le mot dont on va parler aujourd'hui ?
Modélisation.
Modélisation. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous tenter une première définition approximative de qu'est-ce que ça veut dire ?
En premier lieu, je voudrais dire peut-être que la modélisation est à l'extérieur des mathématiques, mais permet de faire le pont entre les mathématiques et le monde extérieur.
Les mathématiques, c'est différent de la physique.
Tout à fait. C'est un corpus d'une certaine manière. On pourrait même dire que les mathématiques ne sont pas exactement une science. Elle est a priori, elle ne doit rien au réel, mais elle permet par ses concepts, ses équations, parfois de raisonner avec la réalité extérieure. Et pour moi, la modélisation, c'est ce qui fait le pont entre la réalité, une réalité qu'on peut vivre tous les jours, on peut parler de ce qu'on observe dans la physique, le comportement des fluides, des grains, le comportement des solides, donc une réalité physique au sens traditionnel du terme, et puis des choses un peu plus exotiques comme le comportement social, le comportement des voitures, etc., des choses qu'on peut observer, dont on peut chercher à encoder des mécanismes élémentaires. Donc si on peut penser, pour prendre un exemple peut-être pour rendre les choses un peu plus claires, on peut penser à la modélisation de systèmes d'entités en interaction. Donc ces entités peuvent être des choses, simplement des objets, des billes, des cailloux, ce que les physiciens appelleraient des particules passives.
Mais tu n'as pas la prétention d'expliquer le comportement des humains, par exemple ?
Alors, je n'ai pas la prétention, mais d'une certaine manière, j'ai une petite prétention au sens où je trouve il est fécond d'essayer de mathématiser une partie de ce comportement. Donc on pense à ces entités. Moi, je me suis en particulier beaucoup intéressé ces dernières années au comportement des foules, ou de façon plus générale, comportement d'êtres sociaux, de gens, au travers de la propagation d'opinions. Donc on a une situation, un phénomène qu'on observe, en général partiellement. On voit des choses, par exemple des voitures sur la route, et on va chercher à mathématiser ce qu'on voit. C'est-à-dire à écrire des équations, d'abord identifier ce qu'on appellerait des variables mathématiques qui vont être, par exemple, pour des voitures sur une route, ça va être la position des voitures au cours du temps. Et on va chercher à encoder les mécanismes dont on pense qu'ils sont de nature à expliquer ce qu'on observe.
Tu veux comprendre ou tu veux prédire ?
Alors, il y a les deux. Moi, je suis plus du côté de la compréhension. C'est une manière un peu lâche d'aborder. Prédire, c'est très difficile. Peut-être on reviendra à cette question de prédiction. Est-ce qu'un modèle est prédictif ? Ça, c'est une question très délicate. Là, il s'agit plutôt de comprendre d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire donc d'écrire ces équations, d'écrire ce qu'on pense être les mécanismes. Par exemple, si on a deux voitures qui se suivent, on va écrire le fait que la vitesse de la voiture de derrière va être une certaine fonction, va dépendre de la distance au véhicule qui précède.
Tu aimerais comprendre les embouteillages.
Voilà, typiquement, l'émergence de phénomènes plutôt macroscopiques, c'est-à-dire à grande échelle, qu'on va observer, à l'aide de mécanismes qu'on va encoder plutôt au niveau de la particule ou de l'entité du véhicule. Donc c'est, pour reprendre un mot qui est plutôt utilisé en économie, on parlerait de bottom-up, c'est-à-dire on part du bas, on part de du fonctionnement élémentaire de ces entités, ces véhicules par exemple, on va chercher à écrire des équations. Donc on aura ensuite des systèmes, un système d'équations avec l'ensemble des degrés de liberté qui peut être la position des 1000 voitures sur une route. Et on va, à partir de ça, étudier ces équations. Là, comme mathématicien, on est obsédé par l'idée d'existence, d'unicité. On va essayer de vérifier que le problème, on dit qu'il est bien posé, au sens si on se donne une condition initiale, on va avoir une solution qui est bien définie.
Tu cherche pas réellement à résoudre ces équations, mais à avoir une idée globale du comportement des solutions.
C'est plutôt ça, effectivement. Et le modèle, d'ailleurs, pour anticiper un peu sur ce caractère prédictif, le modèle ne saurait prétendre prévoir le mouvement d'une particule. C'est plutôt essayer d'avoir une sorte de modèle, c'est une vision simplifiée du réel, mais mathématisée proprement, dont on va étudier le comportement et on va chercher à montrer, éventuellement en s'aidant de simulations numériques, que ce modèle qu'on a écrit, cet ensemble d'équations, permet de retrouver les phénomènes qu'on observe, comme par exemple la circulation en accordéon. Et ça permettra éventuellement d'identifier, par exemple, certains paramètres qui conditionnent l'importance de ces instabilités.
Est-ce que c'est proche de, pour le coup, une question strictement de physique, qui consiste à dire que l'air qui m'entoure est constitué d'un nombre immense de molécules qui se baladent dans tous les sens, qui s'entrechoquent. Il n'est pas question que je comprenne le mouvement de chacune d'entre elles, mais globalement, les physiciens ont mis au point, les mathématiciens aussi d'ailleurs, depuis un certain temps, comprennent plutôt bien ce qui se passe.
Oui, c'est tout à fait, l'analogie me paraît tout à fait pertinente, effectivement. Il est hors de question de prévoir le mouvement, et ça n'aurait d'ailleurs aucun sens, aucune utilité, de prévoir le mouvement d'une particule unique, mais en écrivant des systèmes, en considérant, les simplifiant, en voyant les choses de façon globale, on va essayer de reproduire des phénomènes, par exemple, qu'on observe au niveau des courants d'air, de la mécanique des fluides à très grande échelle, sans plus se préoccuper de la position de telle ou telle particule. C'est effectivement la même idée.
Est-ce qu'il y a un lien avec les modèles réduits avec lesquels je jouais quand j'étais petit ?
Oui, c'est une version un peu simplifiée, caricaturale. Si on pense à une voiture, par exemple, en France, ça en possède les caractéristiques principales, une sorte de squelette. Ça va être identifié d'ailleurs par un moteur d'intelligence artificielle comme une voiture, a priori, parce que c'est un objet qui a effectivement la forme d'une voiture telle qu'on l'a en tête, une voiture réelle, avec une partie fonctionnelle, les quatre roues qui permet de rouler. Et c'est une sorte de version simplifiée. Alors, il n'y a pas de moteur, évidemment, a priori, pas de moteur électrique, dans les voitures les plus voitures en bois, par exemple, mais ça en possède certaines caractéristiques.
Est-ce qu'aujourd'hui encore, on fait de la modélisation on pourrait dire analogique? Est-ce qu'on fait des tests sur des ailes d'avion, par exemple?
Les souffleries ont essentiellement été remplacées par le calcul numérique depuis les années. Par la modélisation, tout à fait. La modélisation, l'écriture des équations de la mécanique des fluides, leur résolution numérique qui a donné lieu à un domaine des mathématiques à part entière, qu'on appelle parfois le calcul scientifique, dans la résolution effective de ces équations, ou l'analyse numérique qui permet de préciser, de montrer qu'on a effectivement une approximation de la solution exacte. Et l'essentiel des souffleries qui coûtaient très cher ont été remplacées par des gros ordinateurs.
Qui coûtent très cher également.
Qui coûtent assez cher également et qui consomment de l'énergie également, tout à fait. Bon, ça permet de faire des choses quand même plus rapidement, de travailler sur des prototypes virtuels qui n'existent pas, qu'on n'est pas forcé de construire. Les souffleries ont essentiellement disparu. Elles sont quand même utilisées pour des phénomènes un peu particuliers. Elles sont utilisées en recherche, disons, ces maquettes en quelque sorte. Si on s'intéresse par exemple aux avalanches, aux éboulements de terrain, qui sont des choses très difficile à étudier, on reproduit en laboratoire des avalanches pour les étudier. L'avantage de ce dispositif expérimental, c'est ça que permet, si on dispose d'instruments de mesure précis, ça permet vraiment d'en comprendre beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire sur une avalanche réelle, de comprendre les mécanismes, le déclenchement, l'évolution, etc. Ça n'est pas contradictoire avec l'utilisation de ces modèles dont on parlait, de ces modèles conceptuels, mathématiques, mais ça permet, surtout dans des domaines comme les avalanches, où finalement on ne connaît pas parfaitement la physique. C'est un point important. Quand on parlait de la mécanique des fluides tout à l'heure, essentiellement, on sait ce qui se passe. Les modèles, ils sont solides. Les modèles, ils sont compliqués, mais d'une certaine manière, ils sont admis comme les équations de Navier-Stokes qui vont être utilisées pour modéliser la circulation de l'air dans cette pièce ou l'air dans les poumons ou l'eau des océans. Essentiellement, on a des choses qui sont incontestables, enfin des modèles, et quand on sait les résoudre numériquement avec précision, on retrouve effectivement la réalité. C'est difficile, mais il n'y a pas d'ambiguïté sur les modèles. Quand on est dans des situations un peu intermédiaires, et c'est le cas d'ailleurs des sciences sociales, où la modélisation au niveau de l'entité, les lois physiques ne sont pas si claires que ça. Donc c'est vrai pour les personnes.
Peut-être même qu'elle n'existe pas.
Peut-être même qu'elle n'existe pas. Ou si elle existe, c'est de façon très imparfaite. On va simplement en faire une sorte de caricature du comportement, assimiler un conducteur automobile à une sorte de robot qui agit en fonction de ce qu'il voit, mais de façon assez rudimentaire. L'avantage, c'est que dans ce cas-là, si on arrive à avoir un modèle qui reproduit les phénomènes expliqués, on peut penser qu'on a capturé l'essence de ce phénomène, c'est-à-dire la cause du phénomène, et on peut en contrôler les effets, éventuellement se dire par exemple que si on s'arrange pour que les conducteurs aient un comportement différent, on va diminuer la probabilité que cette circulation en accordéon apparaisse, par exemple. Donc on peut agir sur le système grâce à ça. Thank you.
Alors que je comprenne bien, toi tu es mathématicien, tu es absolument pas un physicien.
Non.
Tu n'es pas un expérimentateur. Tu fais des expériences de pensée, en quelque
sorte.
C'est
plus des expériences de pensée. Alors, j'interagis, comme évidemment, c'est un travail qui ne se fait pas tout seul. J'ai énormément de contacts avec des scientifiques d'autres disciplines ou des gens qui ne sont pas scientifiques académiques à proprement parler. Parfois, dans certains cas, on arrive à le faire sur table soi-même. Par exemple, l'avantage des sciences sociales, c'est d'une certaine manière, on est son propre objet. On peut modéliser. Moi-même, il m'arrive d'être conducteur, donc je peux m'amuser à modéliser mon propre comportement et regarder ce que ça donne à un système constitué de 1000 copies de moi-même et voir si je retrouve le comportement observé en pratique. Et ça marche pas si mal que ça.
Tu es un conducteur normal.
Je suis un conducteur normal, tout à fait. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que j'assume, je suis professeur dans le laboratoire de mathématiques, mais comme je disais tout au début, la modélisation, je la vois quand même comme quelque chose à l'extérieur des maths. Alors on pourrait dire pourquoi faire de la modélisation quand on est mathématicien ? Ben, je pense qu'il y a quelque chose de très fécond dans l'idée de faire des allers-retours entre ce monde à l'extérieur des mathématiques, donc ce qui fait un pont entre la réalité et les mathématiques, et puis les mathématiques elles-mêmes. Et c'est d'ailleurs l'une des difficultés, je pense, et pour ça c'est assez difficile à enseigner, la modélisation en tant que telle, parce que les étudiants sont souvent troublés par le fait que les règles du jeu ne sont pas très claires quand on passe d'une démarche de modélisation qui, par essence, elle est informelle, elle est tâtonnante, on essaye des choses et puis on vérifie. Et puis, à certains moments, on obtient un système qui est clair mathématiquement, qu'on peut étudier en tant que tel, qui peut avoir d'ailleurs un intérêt mathématique fort et être complètement déconnecté du réel. Ça peut être un mauvais modèle en tant que représentant la réalité, mais un modèle intéressant comme objet mathématique.
Alors, on en revient à la question initiale. Quelle confiance tu donnes dans un modèle ?
Ça dépend beaucoup de la situation. Je ferais quand même une différence essentielle entre, disons, le monde des entités passives, la physique, en gros, le monde physique, pour lequel la démarche est quand même bien balisée. On peut faire des comparaisons très précises avec des expériences. Quand on a un modèle, on peut le tester, le confronter à la réalité, éventuellement à la réalité observée dans la nature, en quelque sorte, ou concevoir des expériences de façon à comparer, à maîtriser parfaitement les conditions initiales. Et là, on peut avoir des modèles relativement prédictifs, en particulier en mécanique des fluides. Ça se passe bien. Alors, ça se passe bien, ça veut dire, on parle parfois de l'effet papillon, ça veut dire qu'on ne va pas décrire chaque micro-tourbillon qui va apparaître sous le clocher de Notre-Dame. Mais sur les quantités globales, on va avoir des systèmes assez fiables qui permettent, à l'heure actuelle, sur le long terme, qui permettent, alors, ou le semi-long terme, qui permettent d'avoir des prévisions météo qui, à l'heure actuelle, à 8-10 jours, sont relativement fiables, et même des prévisions à beaucoup plus long terme, avec des objets de modélisation différents, sur la prévision en termes de climat. Même si, encore une fois, on ne prétend pas avoir modélisé le mouvement de chaque tourbillon, de chaque molécule d'air, bien entendu.
En revanche, pour les choses de nature sociologique ou
humaine, ça, c'est évidemment. Là, on a un problème dans la constitution du modèle. On a un modèle prédictif conditionnellement à la validité des ingrédients qu'on a introduits dans nos modèles. C'est-à-dire, quand je modélise des conducteurs, par exemple, je les modélise selon un mécanisme, par exemple une courbe de comportement qui va quantifier, qui va préciser la relation entre la distance au véhicule qui précède et la vitesse que j'ai, qui peut par exemple quantifier, on peut prendre en compte des conducteurs plus ou moins prudents, je ne rentrerai pas dans les nationalités ou les préjugés qu'on peut avoir sur les différents pays, mais on sait que les conduites sont différentes, donc on peut modéliser tout ça. Par contre, le modèle, si on l'applique à une situation réelle, on peut évidemment, à moins d'avoir une connaissance absolue du comportement de chacun, on ne peut pas être sûr de la réalité. On ne peut que rester à un niveau relativement qualitatif, mais qui suit quand même sur certaines, par exemple l'apparition ou non de circulation en accordéon, de bouchons, c'est des choses qui marchent quand même globalement assez bien. Avec ce mystère qu'on avait d'ailleurs rencontré au moment du Covid sur la modélisation du CO2, je crois que c'est un bon exemple, la modélisation du mouvement du CO2 comme proxy des molécules, des petites particules de l'ordre de 1 micron émises par les gens. On a un phénomène, par exemple l'air dans cette pièce, l'écoulement d'air dans cette pièce est régi par des équations, ces équations d'Aviston qui sont bien connues mais qui sont très compliquées à résoudre. Et même, j'oserais dire que modéliser très précisément dans les heures qui viennent l'air dans cette pièce est quelque chose qui n'est pas à la portée des scientifiques actuels pour modéliser précisément. Par contre, paradoxalement, ces modèles extrêmement compliqués en moyenne, se comporte finalement de façon assez simple. On peut vérifier, par exemple, dans le cas du CO2, que finalement, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone que j'émets,
il se diffuse
par convection. Il va y avoir une diffusion naturelle qui est en fait assez négligeable, mais en fait, par le brassage de l'air, le fait qu'il y a de la convection naturelle, ça va uniformiser en une fraction de minute ou quelques minutes le CO2 dans cette pièce. Donc les mécanismes sont extrêmement compliqués, mais finalement, ce qu'on va observer à la fin, c'est finalement relativement simple si on ne s'intéresse pas aux détails.
Thank you. Toi, ce qui t'intéresse dans ta profession, c'est le fait d'être mathématicien, le fait d'avoir des interactions avec des gens très différents, de frotter à des cultures différentes.
Alors, moi, je suis vraiment très attaché à la modélisation elle-même. Ce qui peut sembler un peu étonnant, d'une certaine manière, c'est pas dans mon cahier des charges, c'est pas dans ma fiche de poste au départ, mais je pense que la vie telle que je la conçois de mathématicien est beaucoup plus riche quand on participe à cette démarche de modélisation, même si elle est à l'extérieur. Moi, je pense que je serais un peu frustré de travailler uniquement sur des problèmes qui sont directement mathématisés, en faisant des études, et je respecte tout à fait le travail des gens qui font ça, bien entendu. mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'aime assez cette position entre deux chaises, d'être un peu à la bordure de ce monde merveilleux et éthéré des mathématiques, et d'en sortir parfois pour aller piocher des choses que j'essaye de mathématiser, et puis à partir des résultats des modèles mathématiques, de les reconfronter au réel. C'est une démarche qui peut être assez pénible, assez difficile, assez longue, parfois pas très valorisante académiquement, mais qui est passionnante.
L'autre jour, tu as donné une conférence ici, et à l'issue de ta conférence, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a posé une question que je te pose. Il m'a dit « Est-ce que vous croyez que tout est modélisable ?»
Moi, j'aurais tendance à dire, ça peut sembler un peu présomptueux, d'une certaine manière, oui. Alors, encore une fois, je ne veux pas dire que tout est mathématisable, on peut construire un modèle prédictif de tout. Mais je pense que tout ce qu'on peut concevoir se mathématise d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il existe, c'est un peu c'est l'impression au fil des années que j'ai, c'est quand on se donne les moyens de le faire, on trouve toujours un concept mathématique, et s'il n'existe pas, on le crée, qui résonne d'une certaine manière avec la réalité observée. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on peut mettre dans un ordinateur tout ce qu'on observe, en particulier dans le cas des mouvements sociaux, et avoir un modèle prédictif de ce qui va se passer. Je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais simplement qu'il existe une résonance entre la réalité, donc ça a été vérifié au fil des siècles derniers pour ce qui est de la physique, avec des mathématiques, ces objets conceptuels qui collent quand même étonnamment bien, qui sont extrêmement féconds pour modéliser la réalité physique passive.
Donc en clair, tu es en train de dire comme Pythagore, tout est nombre.
D'une certaine manière, oui. Où tout est structure. Disons qu'il existe une structure, il y a des univers qui sont parallèles, les mathématiques sont un univers parallèle qui pourrait d'une certaine manière et en soi déconnecté du réel, c'est ce qui fait sa beauté aussi. Mais il existe des correspondances, parfois plus ou moins mystérieuses, et le fait de passer par des mathématiques permet de faire le lien entre des phénomènes de la réalité observés. Donc par le concept, on arrive à subsumer la réalité en des concepts.
Quelle belle phrase !
Tu m'interdis d'utiliser des mots compliqués, mais j'en utilise quand même un.
Rapidement, je crois qu'on va conclure. Et j'ai posé la question que je pose à tout le monde à la fin. Est-ce que tu es musicien ? Est-ce que tu apprécies la musique ?
Oui.
Alors, trouve-moi une musique qui pourrait illustrer ce dont on vient de parler.
Je suis un peu gêné. Je vais prendre un point parce qu'on m'a souvent posé la question, comme je fais beaucoup de piano, ça fait maintenant plus de 40 ans que j'en fais. Et en fait, d'une certaine manière, alors les gens essayent souvent de me faire dire qu'effectivement, il y a un lien entre le goût pour les mathématiques et le goût pour la musique. Et en fait, plus j'évolue en temps, plus d'une certaine manière, je me dis que ce qui est intéressant dans la musique, c'est plutôt ce qui n'est pas mathématique. Mais ça n'empêche pas de remarquer de façon flagrante qu'il y a des choses mathématiques en musique, il y a une structure assez forte. Évidemment, on pense à Bach, aux fugues de Bach, par exemple, pour lequel on a... Alors là, il y a des exercices intellectuels dans l'art de la fugue, par exemple. Mais paradoxalement, je compléterai quand même en disant que ces fugues sont belles bien qu'elles soient mathématiques et pas parce qu'elles sont mathématiques.
Alors, tu ne m'as pas donné un exemple d'une musique que tu aimerais que j'utilise.
Donc j'ai parlé de ces fugues de Bach, j'en ai joué, d'ailleurs j'en ai enregistré il n'y a pas très longtemps, de ces fugues de l'art de la fugue, où on retrouve ces thèmes. Donc c'est par exemple même la première fugue de l'art de la fugue, elle est relativement simple, parce qu'il y a un seul sujet qu'on va retrouver, et on a quelque chose effectivement de très mathématique, avec cette sorte de principe de contrepoint, une sorte de canon généralisé, et qui donne une impression à la fois de plénitude, mais ce qui est assez fantastique, c'est comme des pièces qui sont très émouvantes. Alors je ne sais pas si les mathématiques, je retourne la question, est-ce que tu trouves les mathématiques émouvantes? Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être émouvantes, il y a de l'émotion, on a de l'émotion à faire des mathématiques, mais je dirais, moi j'aurais tendance à penser que les mathématiques en elles-mêmes, les objets ne sont pas émouvants en tant que tels, et le miracle de Bach, c'est d'avoir réussi à faire de la musique émouvante et pourtant extrêmement, extrêmement formelle.
petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.